Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Journée spéciale ce matin en partenariat avec le site Combini, hashtag avec les Afghanes. Des femmes afghanes contraintes à l'effacement, à la réclusion forcée dans leur pays et quelques femmes parvenues à s'exiler partout dans le monde et en France. Pourquoi les femmes afghanes? Parce qu'elles sont les premières victimes du régime taliban. Des femmes plus que jamais muselées, des femmes plus que jamais bafouées dans leurs droits et leurs désirs, des femmes violentées, des femmes humiliées, mais des femmes combattantes à l'intérieur et à l'extérieur de leur prison à ciel ouvert. Coup de projecteur sur leurs espoirs et leur lutte. À quoi ressemble leur vie quotidienne sous le régime taliban? Qu'est-ce qu'une vie d'exilés? Comment les aider concrètement? Nous attendons vos questions, vos témoignages, vos initiatives pour aider les femmes afghanes depuis la France au 01 45 24 7000 et en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Et comme tous les mardis, vous retrouverez Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle qui posera ses questions. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Comme tu le sais, personne ne veut abandonner sa maison à moins qu'elle ne soit en flammes et personne ne plonge dans l'eau à moins qu'elle ne soit plus sûre que la terre ferme. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel à la France et la communauté internationale. Dites-moi, ne voyez-vous pas clairement que les talibans n'ont tenu aucune des promesses qu'ils vous ont faites? Ne voyez-vous pas qu'ils gavent les médias de mensonges rassurants tout en poursuivant en coulisses des vengeances sanglantes? Les femmes afghanes se souviennent de leurs souffrances sous le précédent gouvernement taliban. Que se passera-t-il si ce régime annonce demain que le peuple afghan est satisfait et l'a choisi? Et si la communauté internationale déclare cette junte militaire légitime comme si elle en avait le droit? Alors qui me remarquera, agenouillée seule dans un stade? Nous, les femmes d'Afghanistan, lançons encore une fois et de toutes nos forces un appel à la communauté internationale. Ne vous laissez pas berner par les nouveaux mensonges des talibans comme vous l'avez été auparavant. Ne laissez pas les aspirations et les vies de la moitié des 35 millions d'Afghans être réduites en cendres. Agissez aujourd'hui avec fermeté et efficacité, car demain il sera trop tard.
Une lettre d'Aïcha lue sur France Inter le 1er octobre dernier. Bonjour Massoma, bienvenue
Hello,
sur France Inter.
Hello.
Vous avez 19 ans, vous avez quitté l'Afghanistan le 24 août dernier avec votre mère, ici présente en studio. Vous étiez étudiante en administration publique. Comment avez-vous pu échapper au régime taliban, Massoma?
How did you escape the Taliban? Okay. The Taliban regime is not so good because when
oui, en effet, le régime taliban a beaucoup menti, mais son vrai visage, c'est que les femmes sont interdites d'aller à l'école, à l'université, tout leur est interdit. Et vous savez, il y avait par exemple un beau projet scientifique conduit par des étudiantes qui s'était attaquée à la construction de robots qu'elle voulait exporter.
And when the Taliban
une activité scientifique.
Universities are closed.
Dès l'arrivée des talibans, les écoles, les universités ont été fermées aux femmes. Donc elles ont dû s'arrêter.
And all of the girls be active in our society, they are go out out of the our country.
Et toutes les filles qui avaient une activité, qui voulaient faire des choses, les femmes ont dû quitter le pays.
Qu'est-ce qui s'est passé justement le 24 août dernier quand vous avez quitté l'Afghanistan? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Massoma?
Le 24 août, quand nous sommes partis, c'était la progression de l'armée talibane qui nous a chassés.
And the Taliban
lors du premier pouvoir taliban, il y a 20 ans, ils avaient tué énormément de gens, énormément d'Afghans.
And also, they don't want to women be active in the society.
Et réprimer complètement les femmes, ils ne veulent qu'elles n'aient aucune activité dans la société, qu'elles n'y prennent pas part.
Bonjour Yazda Nadia Anouari, bienvenue. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous avez fui l'Afghanistan le 26 août dernier, vous étiez étudiante. Que se passe-t-il ce jour-là, Yazdan? Et qu'est-ce qui vous a poussé à fuir?
The day I left the country,
le jour où j'ai quitté mon pays,
it was not a good day for me. Well,
bon,
for the first
c'était
season,
un jour vraiment très triste pour moi. D'abord, je m'exilais, je quittais les miens.
It was my first interaction with the Taliban.
Et puis c'était ma première rencontre avec les talibans, pour ainsi dire. Pour la première fois, j'ai vu clairement leur manière de se comporter, leur manière de traiter les gens, hommes comme femmes. Même un criminel, des prisonniers les plus endurcis, on n'aurait pas le droit de les traiter ainsi. Ils se comportent de manière vraiment atroce. J'ai pu le constater. Ils hurlent sur les gens dans les rues, les frappent.
They didn't see if you didn't consider your gender or your age or your anything.
Quel que soit votre genre, votre sexe, votre âge, ils frappent tout ce qu'ils veulent attaquer. Ils s'en prennent à tout le monde.
Terrible.
C'est affreux.
Alors jusqu'au 26 août dernier, vous étiez étudiante en littérature française et en commerce à l'université américaine de Kaboul. À quoi ressemblait une journée de cours avant l'arrivée des talibans? À quoi ressemblait votre vie avant leur arrivée?
The life before Taliban, it was hopeful.
Avant le retour des talibans, eh bien, on était plein d'espoir, notamment les femmes afghanes étaient remplies d'espoir. L'espoir que les femmes puissent enfin avoir des rêves, un avenir, et puis puissent exercer leurs droits, obtenir leurs droits et avoir leur place dans la société.
Massouma, vous avez le même sentiment?
You had the same feeling.
Yeah, I have the same feeling because when the Taliban
oui,
come,
je ressens la même chose.
The people think like that. The Taliban catch the girls for the forced marriage.
À l'arrivée des talibans, on est revenu sur les vieilles coutumes. Les filles doivent être mariées selon
le souhait
des parents. Les talibans ont massacré aussi beaucoup de gens qui s'opposaient à eux.
They didn't feel that's a baby, that's a woman, that's
importe,
no matter for them.
Aucune pitié pour leurs victimes. Ils ont tué des bébés, des femmes, de jeunes enfants.
Quel est votre état d'esprit au moment où vous quittez le pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous ressentez de la peur, du soulagement, de la joie, de la tristesse?
Right now that I'm in France, I feel safe.
Maintenant que je suis en France, je me sens enfin en sécurité.
I feel that I will have a future.
Et like, j'ai l'impression que oui, je peux avoir un avenir désormais.
To do what I had in my mind, to
je pourrais accomplir ce que je souhaite
country,
et réaliser mes rêves pour aider mon pays, pour ma culture.
I'll be able to
je pourrais continuer à enrichir tout cela, participer et encore une fois réaliser mes rêves.
Comment vit-on l'exil dans sa chair et dans sa tête? J'aimerais citer l'écrivain Chouki Abdelhamir qui nous dit à propos de l'exil: le réel exil commence lorsque le présent est confisqué, quand on est condamné à rêver le temps d'avant et à attendre l'avenir. Comment vous vivez l'exil?
Yeah, so the day that the Taliban took over Kabul, it was very shocking, not only for
lorsque
me but for everyone.
Les talibans ont pris Kaboul, ça a été un véritable choc, pas seulement sur moi bien sûr, mais pour tous les Afghans, notamment les femmes. Il y avait un sentiment très étrange de peur, un sentiment d'impuissance aussi et de désespérance, et l'avenir s'est beaucoup assombri.
Massouma, comment vous vivez-vous l'exil?
How do you live exile? How do you experience exile here?
So we can't believe it, the Taliban come in the Kabul. And also, shocked
on pouvait
because,
plus vivre we can't de l'arrivée des talibans à Kaboul.
Dreams, our wish. And also,
comme vient le dire Yazdan, on ne pouvait plus espérer réaliser nos rêves, nos ambitions. Depuis 20 ans, on avait essayé d'améliorer la vie quotidienne dans notre pays. Et dès qu'ils sont revenus, l'horizon a été bouché.
Bonjour Delphine Rouillot.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de France Terre d'Asile, vous êtes magistrate à la Cour des Comptes. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l'émission de France Terre d'Asile, née il y a tout juste 50 ans? Et vous nous direz votre regard sur le témoignage de nos deux invités.
Alors France Terre d'Asile, c'est une association effectivement qui est née en 1971 et qui est née de la conviction de tout un petit groupe de personnes que pour défendre l'asile, il fallait non seulement défendre le droit, mais il fallait penser l'accueil. Et donc on est progressivement, on s'est occupé de l'accueil des vagues de réfugiés. Donc on a commencé en 1973 avec les premiers réfugiés qui fuyaient la dictature de Pinochet au Chili. Et depuis, l'association s'est développée autour de cette conviction que la France avait vocation à accueillir tous ceux qui cherchaient protection.
C'est une tradition française.
C'est une tradition française. Et aujourd'hui, on a 1000 salariés, on gère une centaine de dispositifs un petit peu partout en France, et on s'est, à ce titre-là, qu'on s'est retrouvé mobilisé dans les opérations d'accueil des familles afghanes qui sont arrivées après le 18 août.
Alors, parmi les missions de France Terre d'Asile, accueillir, accompagner, défendre les droits de ceux qui le demandent ou ceux qui obtiennent une protection internationale sur notre sol. Votre regard sur le témoignage de nos invités, Yazdan?
Le regard, d'abord, il est plein d'admiration, parce que je pense qu'il faut saluer le courage de ces jeunes femmes et de leurs familles. Je suis heureuse d'entendre que dans leur exil, il y a de l'espoir et il y a aussi désormais cette conviction ou ce souhait que leur rêve puisse se réaliser, que leur avenir puisse se faire désormais en France. Je pense que dans les dernières semaines, toutes les familles afghanes qu'on a accueillies, on a accueilli près de 500 personnes, on a accueilli beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Il y avait tout ce que ces femmes racontent là, c'est-à-dire à la fois ce récit des drames familiaux, personnels, intimes que chacun a vécu et qui ont conduit toutes ces personnes à quitter l'Afghanistan en catastrophe, en laissant tout, en abandonnant tout. Il y avait aussi beaucoup de désespoir pour tous ceux qui étaient partis avec une partie de leur famille, mais qui avaient aussi laissé en Afghanistan le reste de leurs proches. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'on a pu accueillir beaucoup de monde, mais qu'il y a encore beaucoup de gens qu'il faut sauver.
Massoma, vous avez laissé une partie de votre famille en Afghanistan.
Yeah, I live with my family in Afghanistan. Then Taliban come and me.
Oui, en effet, j'étais entourée de toute ma famille avant, et ce n'est que ma mère et moi qui avons pu partir.
Et vous, Yazdan?
My parents, they are still in Kabul, stuck.
Oui,
there.
Mes parents sont toujours à Kaboul, coincés là-bas. Je m'inquiète pour eux à chaque instant.
Comment s'est passé concrètement votre départ, Yazdan? Comment ça s'est passé?
It was a very, how to say, strange experience.
Comment
for
dire?
Me. Well, we
c'était
were
vraiment
stuck in the airport,
une expérience très bizarre.
We
ça faisait trois jours qu'on était coincé à l'aéroport. On essayait d'approcher des portes d'embarcation. Mais il y avait des gardes talibans qui nous empêchaient de franchir ces portes.
We slept in the streets for 3 days, me and
pendant trois jours, moi et deux de mes sœurs ont dormi dans la rue.
Scary for us, a scary experience because
c'était
in a,
assez terrifiant.
Society like Afghanistan,
on avait peur dans une société comme la société afghane. Il n'y a aucune sécurité pour une fille qui se trouve seule le soir, et on était là à se retrouver sur le trottoir sans couverture, juste pour attendre que les portes de l'aéroport s'ouvrent pour espérer nous sauver nos vies.
Vous avez vécu la même expérience?
Yeah, when we leave the Afghanistan, we can't believe it. The Taliban come in our country, and we should leave our country. This is our country.
Oui, quand on est parti, c'est qu'on n'avait pas d'autre choix.
That is so hard for us.
Et pourtant, c'est tellement difficile de quitter son pays.
Stay for 3 days in the airport.
Nous aussi, nous avons attendu 3 jours
That's
à l'aéroport.
Not so hard for us because another
Mais ce n'était pas ça le plus difficile. On a vu beaucoup d'autres Afghans qui se débattaient avec des difficultés encore plus grandes, qui n'arrivaient même pas à approcher de l'aéroport.
Alors Delphine Rouillot, la principale fonction de France Air d'Asile, c'est l'intégration et l'accueil des exilés. Votre association se focalise sur l'aspect très pratique de l'asile. Concrètement, expliquez-nous ce qui se passe pour un exilé afghan, une exilée afghane qui arrive en France. Que se passe-t-il quand on vient vous voir ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui sont arrivées, elles ont été accueillies dans des hôtels pour pouvoir d'abord passer une période de confinement de 10 jours qui est obligatoire puisque l'Afghanistan est sur une liste rouge de pays liés au Covid. Et à partir de là, la quasi-totalité des personnes sont rentrées dans une démarche de demande d'asile. Donc, elles ont fait toute une série de démarches administratives auprès de la préfecture pour pouvoir ensuite obtenir le statut de réfugié. Et le statut de réfugié, ça veut dire d'un titre de séjour de 10 ans et donc une grande sécurité pour pouvoir rester ensuite sur le territoire français. Les personnes, elles ont en fait très rapidement quitté les hôtels pour se faire héberger dans ce qu'on appelle des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc ça, c'est le dispositif habituel dans lequel on accueille toutes les personnes qui demandent l'asile en France. Et donc aujourd'hui, les familles afghanes qui sont arrivées, elles sont prises en charge par des associations comme la mienne, mais il y en a beaucoup d'autres, accompagnent. Il y a des travailleurs sociaux qui vont les aider à faire leurs démarches, qui vont commencer à les aider à apprendre le français, parce que vous parlez d'intégration. L'intégration, ça démarre par une chose, c'est la maîtrise de la langue. Qui vont inscrire les enfants à l'école, et c'est déjà le cas pour beaucoup. Enfin voilà, qui vont tout simplement progressivement permettre à ces personnes de s'inscrire sur les territoires, de commencer à penser leurs projets et progressivement de se reconstruire.
Massoma, qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand vous êtes arrivée en France ? Qui vous a accueilli ? Comment s'est passé votre hébergement, votre début d'intégration dans notre pays ? Racontez-nous un peu, Massoma.
So when I arrive in France,
à mon arrivée en France,
so happy because, that's
en fait, j'étais folle de joie. Ça représentait une telle chance.
Also go back the
ça m'ouvrait de nouveau un avenir, la perspective de reprendre mes études, de retourner à l'université.
I hope to French government help another Afghan girls because
et mon espoir, c'est que le gouvernement français continue d'aider les jeunes femmes et les femmes afghanes, car le pays est devenu très dangereux pour elles.
Et vous, Yazdan, comment s'est passé concrètement votre arrivée en France ? Comment avez-vous été accueillie ? Où logez-vous ? Racontez-nous votre quotidien.
Okay, so when I arrived in Paris,
à mon arrivée à Paris,
had a very good feeling. I felt safe.
J'avais un grand sentiment de soulagement. Je me sentais enfin en sécurité. Justement, à cause de cette très mauvaise expérience, ces 3 jours passés à l'aéroport à désespérément essayer de quitter le pays pour venir à Paris, ça m'avait beaucoup chamboulé. Cette épreuve, j'avais besoin que quelqu'un me comprenne. Alors j'ai pensé à aller retrouver ma sœur en France. Elle vivait en France déjà. Et au bout de quelques jours, après m'être un peu remise, je me suis rendue à la préfecture. Et à la préfecture de police, on m'a proposé un hébergement dans un centre pour réfugiés à Gargenville. Et là, ça se passe plutôt bien en ce moment.
Bonjour Amara Makoul.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes rédactrice en chef à France 24. Vous êtes responsable du site Info Migrants. Expliquez-nous comment fonctionne ce site en 5 langues.
En 6 langues maintenant.
6 langues.
Oui. Du coup, Info Migrants, c'est un site, c'est un média. C'est un média qui est destiné à informer les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, sur l'actualité des pays qu'ils quittent, l'actualité des pays qu'ils traversent, qu'ils sont amenés à traverser en venant en Europe, et également l'actualité des pays européens. Quand on parle d'actualité, c'est l'actualité comme on la connaît, l'actualité chaude. Mais il y a aussi les reportages, les focus sur les associations, les portraits d'autres encore réfugiés qui ont réussi, certains qui n'ont pas réussi. Et puis on a une section qui est très importante, qui est vraiment le véritable ADN d'Infomigrants, c'est participatif, c'est les témoignages. Les témoignages de migrants, de demandeurs d'asile, de réfugiés, parfois ils sont encore dans leur pays, ils nous expliquent pourquoi ils veulent partir, parfois ils sont arrivés, parfois ils sont bloqués quelque part, ils racontent leur détresse. Et chaque contenu que nous faisons a pour but d'être utile, d'apporter une information qui va être utile à quelqu'un. Et c'est comme tendre un miroir à un autre réfugié, parce que voilà, la reconnaissance fonctionne très bien. Le but d'Infomigrants, c'est pas d'encourager, c'est jamais de dissuader non plus, c'est vraiment de donner une information équilibrée, juste pour venir combler le manque d'informations, parce que on s'est rendu compte, en fait, c'est un média qui est piloté par France Média Monde, qui regroupe France 24, RFI, Monte Carlo, Dualia, et la Deutsche Welle, l'audiovisuel extérieur allemand, et l'agence italienne ANSA, et c'est né de l'idée, en 2015, que ces migrants étaient mal informés, qu'ils étaient à la merci des fake news, des intox, véhiculés par les passeurs, et sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'était, voilà, de leur apporter cette information fiable et vérifiée, pour qu'ils puissent se faire une idée et prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Et pour contrer au mieux le discours des passeurs, en fait, on est sur le même terrain. On est très présent sur les réseaux sociaux avec des contenus adaptés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour chaque réseau social, on a des formats qui sont pensés pour cela et pour mieux informer également cette population des femmes afghanes. À France Média Monde, on cherche à s'engager davantage, puisque nous travaillons actuellement sur le lancement d'une nouvelle offre numérique à destination des femmes afghanes. Et voilà, pour cela, je suis ravie d'être invitée, et je vous remercie de m'avoir invitée, en même temps d'ailleurs que Delphine de France Terre d'Asile, car sans les associations, on aurait beaucoup de mal à travailler. Dès le départ, nous travaillons main dans la main. Nous ne sommes pas une association, nous sommes un média, mais c'est grâce à ces associations que dès le départ, nous avons su quel était le besoin, où était le manque d'informations pour pouvoir avoir une offre qui atteigne son but et réellement qui soit utile.
Et n'hésitez pas à relayer autour de vous ce média Infomigrants. Delphine Rouillot, que répondre à ceux qui s'inquiètent de cet accueil des exilés, de ces flux migratoires? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Alors, je cite juste un chiffre que j'ai tiré de votre livre qui sort très bientôt, France Terre d'Exil, 50 ans au rythme des soubresauts du monde. Selon le représentant du Haut Conseil aux réfugiés, Paolo Artini, 86% des réfugiés sont accueillis dans des pays en voie de développement.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'Afghanistan, il y a plus de 2,5 millions, 3 millions de réfugiés afghans, de gens qui ont déjà quitté leur pays. Et en réalité, il y en a plus de 2 millions qui sont au Pakistan. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur où partent, quand une personne fuit son pays, en général, elle s'installe dans un pays limitrophe juste à côté. Et la réalité des flux migratoires, c'est-à-dire des gens qui quittent leur pays pour véritablement rejoindre l'Europe, elle est extrêmement marginale. Nous, on réfute évidemment l'expression même de vague migratoire. Le sujet, c'est des gens qui sont en besoin de protection, qui ont leur vie en danger. Et donc, comment leur répondre? Tout simplement en objectivant, en donnant des chiffres et en faisant exactement ce que fait Infomigrants, c'est-à-dire de la désintox, de la pédagogie, des explications.
Je vous lis ce témoignage d'un gérant d'entreprise à Saint-Nicolas-les-Citeaux que j'ai lu dans le Bien Public du 27 août dernier. Je le cite: « J'ai autre chose à penser que la misère afghane. Je viens de recevoir un courrier. Mes charges sociales ont augmenté de 350 euros et la détresse en France, on y pense. » Voilà, légitimement, voilà, face à l'exil des migrants et des Afghans et des Afghanes en particulier, il peut y avoir ce genre de réaction.
Il peut y avoir ce genre de réaction, mais la question, c'est est-ce qu'on doit leur donner de l'espace ou pas? Parce qu'en réalité, la France, elle s'est construite aussi dans une logique de solidarité, d'ouverture internationale, d'accueil. Et moi, je pense que l'immigration, c'est aussi une chance pour la France. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. Se poser la question de savoir si la misère française vient concurrencer la misère internationale, c'est se fermer les yeux sur le fait qu'en réalité, on est un pays riche qui a une responsabilité et dont c'est l'honneur d'accueillir ceux qui en ont besoin, et ces femmes en sont l'exemple typique.
Yazdan, vous avez ressenti une forme d'hostilité ou de bon accueil de la part des Français, des Françaises qui vous ont accueilli? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
The moment I entered the gate in Kabul, the airport gate, and the French soldiers, they came. They were so nice.
Dès la zone d'embarquement, j'ai croisé des soldats français, des militaires, et qui étaient si sympas avec nous. Je me suis immédiatement sentie en sécurité. Ils essayaient de nous réconforter, de nous rassurer. Et à mon arrivée à l'aéroport de Paris, même chose. Les militaires et tout le personnel de l'aéroport étaient très chaleureux, nous ont entourés. Je me sentais enfin en sécurité et j'avais l'impression d'être dans un pays vraiment qui m'accueillait. Je n'ai pas vu du tout d'hostilité, d'actes de racisme, pas du tout.
Et vous, Massoma, comment avez-vous ressenti l'accueil dans notre pays ?
Yeah, that's so good for me and also for my mom.
Oui, c'était un tel soulagement, une telle générosité envers ma mère aussi, avec qui j'ai quitté Kaboul.
Kabul airport. And
bien sûr, il y a eu tous ces obstacles à surmonter à l'aéroport pour nous deux. Mais il y a tellement pire.
Taliban use the gun.
And here, how do you feel? How did you? How were you
and here,
received?
When I arrived in here, I.
Mais une fois qu'on a fui les talibans et leurs armes, quel soulagement! Oui, on a été bien accueillis et on se sent en sécurité.
Hear the gun voice. Mm. In here.
Et puis au moins ici, on n'entend plus le bruit des armes.
Mm. And the gun voice, so when we hear the gun voice, this that's so hard for me. Mm.
C'est tellement difficile d'entendre le bruit des balles.
Bravo pour
ma mère
bravo
aussi.
Pour votre courage, parce que en préparant cette émission, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé devant fuir la France, devant fuir ce pays pour des raisons climatiques, pour des raisons sociopolitiques. Et c'est vrai qu'on comprend mieux votre exil quand on se met dans votre peau, quand on éprouve de l'empathie pour ce que vous avez vécu. En tout cas, si vous voulez aider concrètement les femmes afghanes, n'hésitez pas à consulter le site franceinter.fr. Vous retrouverez 5 façons très concrètes d'aider les femmes afghanes, ainsi que la liste d'associations qui œuvrent pour l'avenir de ces femmes. Merci infiniment. La traduction assurée par Eve Dair, dans quelques instants, continue à s'intéresser à la vie quotidienne des femmes afghanes. Ici et là-bas, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Et en attendant, on écoute les Rita Mitsuko. Alors c'est quoi ?
Alors c'est quoi ? Que j'appelle ? C'est la joie. C'est elle. Que les émois. Et tout seul. Et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois, je me mets.
Lerita Mitsuko interprété, alors c'est quoi ?
Aujourd'hui sur France Inter, les Afghanes nous parlent. Hashtag avec les Afghanes.
10h38, émission spéciale consacrée aux femmes afghanes. On s'intéresse à leur vie quotidienne, ici et là-bas. Et une question de notre chère Marie-Laure Sunshine, de Femmes Actuelles.
Oui, les Afghanes là-bas. Selon un professeur de l'université américaine de Kaboul, où a étudié Yazdan, elle nous le disait tout à l'heure, des tracts officiels enjoignent les notables locaux à livrer aux talibans des jeunes filles de 15 ans et plus. Et cet universitaire compare cette situation aux enlèvements de masse perpétrés par Boko Haram au Sahel en 2014. On avait alors assisté, souvenez-vous, à une mobilisation mondiale pour les faire libérer. Alors comment la communauté internationale peut-elle réagir ? Et déjà les médias, là je m'adresse peut-être à Mara Makhoul, avez-vous des informations sur ce sujet ?
Mara Makhoul.
Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question.
On n'avait pas entendu votre question au tout début, ma chère Marie-Laure.
Oui, pardon, je parlais d'un professeur de l'université américaine de Kaboul où a étudié Yazdan, qui raconte que des tracts officiels enjoignent les notables locaux à livrer aux talibans les jeunes filles de 15 ans et plus, et il comparait cette situation aux enlèvements de masse de Boko Haram.
Oui. Amara Makhoul, rédactrice en chef à France 24.
Mobilisation. Oui, on a ce genre d'informations à Infomigrants, tout spécialement parce que comme on diffuse en Dari et en Pachtou, nous avons des journalistes afghans dans l'équipe qui ont des informations de terrain directement tout à fait fiables. Il y a énormément d'instructions qui sont données par les talibans ces derniers jours. Les personnes qui sont en contact avec nous, en fait, nous expliquent qu'elles ont peur, qu'elles n'écoutent pas les instructions, que pour ne pas écouter les instructions et ne pas être pris en faute par les talibans, elles ne font que se cacher. Dans leur maison, elles ne sortent plus de peur d'être pris en faute. De la même manière, par exemple, les anciens fonctionnaires de la police ont été appelés pour remettre leurs armes et se livrer, et certains, quand ils l'ont fait, ont été arrêtés, puis on ne les a plus revus. D'autres, par peur, continuent à se cacher. Et continue à chercher une solution de fuir le pays. En ce moment, il n'y a que des informations de cet ordre-là, avec des instructions données par les talibans qui sont difficiles à appliquer, qui mettent les personnes dans l'embarras, dans la peur. Et la seule façon de se sauver, en fait, c'est de rester caché et de chercher une porte de sortie qui, pour l'instant, est compliquée.
Yazdan et Massoma, vous êtes réfugiés d'Afghanistan, je le rappelle, depuis Paris, enfin depuis la région parisienne. Comment vivez-vous l'oppression des femmes par le régime taliban ? J'imagine votre souffrance. Ressentez-vous un sentiment d'impuissance, Yazdan ?
So now that I'm here in Paris, I'm safe, but still
I'm worried. Maintenant que je suis à Paris, je suis en sécurité, mais je m'inquiète beaucoup pour mes amis et mes proches restés en Afghanistan, notamment les jeunes femmes qui avaient un avenir, qui avaient été pleines d'espoir, qui pensaient pouvoir exercer leurs droits et qui maintenant sont coincées à Kaboul. Mes parents également. Mon père a été battu à mort parce qu'il était Hazara, il a été tabassé par les talibans. On me l'a raconté, moi j'étais petite à l'époque. C'est ma mère qui me l'a raconté. Donc je suis morte d'inquiétude pour ma famille et mes amis restés là-bas. Pour tout le monde en fait.
Et vous, Massoma ?
In here, me and my mom also safe, but in Afghanistan,
c'est la même chose ici avec ma mère. On se sent en sécurité, mais on pense à toutes nos sœurs là-bas.
Another people home and catch their girls for forced marriage.
C'est vrai que les talibans pénètrent par effraction chez les gens et enlèvent les jeunes filles pour les contraindre à des mariages forcés. Je vous ai dit qu'ils avaient massacré beaucoup de femmes, de jeunes filles, d'enfants. Donc voilà, bien sûr, j'ai peur pour eux tous là-bas.
Alors vous étiez des femmes éduquées. Si vous étiez restées, toutes vos connaissances, vos compétences auraient été niées, bafouillées. Le régime taliban vous aurait réduite au silence, au propre comme au figuré. Les femmes éduquées sont plus en danger que les autres dans votre pays. Yazdan.
Yes, everyone is in danger,
oui,
especially
tout le monde est en
women,
danger,
women
notamment
who
bien
are
sûr les femmes,
rights,
et encore plus les femmes qui sont éduquées, qui connaissent leurs droits, celles qui ont connu le monde du travail et celles qui essaient de sensibiliser les autres. Toutes ces militantes pour l'égalité des droits, toutes sont en danger.
Bonjour Reza Jafari.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Vous êtes le porte-parole des exilés en France. Quelle est la part de femmes afghanes que vous accueillez dans votre association ?
Alors aujourd'hui, nous accueillons à peu près une quinzaine de femmes en région Île-de-France. Notamment, vous avez en plateau une des jeunes filles que nous accompagnons. On a réussi à faire sortir pas mal des femmes en danger, parce que notre priorité, c'était d'abord de mettre à l'abri les femmes activistes et féministes qui étaient très présentes sur les réseaux sociaux. Mon association, aujourd'hui, une quinzaine de personnes qui travaillaient pour nous sont toujours sur place, mais j'ai décidé de privilégier d'abord faire sortir les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes. Elles l'ont très bien expliqué qu'en première ligne, c'est les femmes et les filles, jeunes filles qui sont en danger en Afghanistan. Aujourd'hui, on les accompagne malgré toutes ces difficultés. Alors, je pense qu'ils vont parler mieux que moi de leur le stress et le choc qui est encore, ils sont encore choqués et je pense qu'ils réalisent pas que 20 années de combat et de lutte contre le terrorisme et aussi pour les progrès de femmes vient de disparaître de jour au lendemain.
Tiens, justement, est-ce que vous organisez un accompagnement psychologique des exilés?
Oui, bien sûr. Dans cet accompagnement, c'est un accompagnement global. Il y a un suivi psychologique, mais aussi à côté, il faut avoir des activités. Parce qu'en France, malheureusement, tant qu'on n'a pas le statut de réfugié, on ne peut pas bénéficier de cours de français. Et le barrage de la langue, c'est très compliqué. Et là, et en plus de ça, on essaye de faire des sorties culturelles et sportives pour pas qu'elles se soient, une fois qu'elles sont seules à la maison, c'est de à chaque fois qu'on pense au passé, c'est de revivre les horreurs qu'on a vécues.
Les traumatismes. Delphine Rouillot de France Terre d'Asile.
Oui, la question de la santé mentale, la fragilité psychologique, elle est essentielle. Alors déjà, juste pour vos auditeurs, dès l'arrivée à l'aéroport, il y avait des psychologues qui étaient présents à l'aéroport et il y a eu un suivi psychologique quasi quotidien dans les centres qui ont été mis en place. Mais la réalité, c'est effectivement que la fragilité, elle va intervenir après. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, au début, elles arrivent, elles sont choquées, et c'est ensuite, seulement progressivement, qu'on mesure l'ampleur de ce qu'on a traversé. Et j'en profite quand même pour dire que ces besoins en santé mentale, ils sont très insuffisamment pourvus en France. Alors, il y a une crise générale de la psychiatrie qui dépasse la question des migrants, mais le besoin de prise en charge de ces publics-là, qui sont différents, qui ont des besoins linguistiques, de traduction, d'interprétariat, qui ont des besoins d'avoir des psychologues formés à l'interculturalité, à l'ethnopsychiatrie, enfin, il y a des choses qui sont dans notre pays trop peu prises en compte, alors que les parcours migratoires sont quand même largement traumatisants.
Yazdan, vous avez ressenti le besoin d'être accompagné psychologiquement à votre arrivée en France?
Oui. Needed any kind of psychological
help. J'ai éprouvé
help.
Ce besoin d'un soutien psychologique,
France,
sous quelque forme que ce soit. Dès mon arrivée en France, je suis allée retrouver ma sœur qui me connaît mieux que quiconque. Psychologiquement, j'étais plutôt mal. Ma sœur aussi, on s'inquiète pour nos parents restés là-bas. Et puis j'étais traumatisée par tous ces événements à l'aéroport, l'incertitude, la crainte des talibans.
Amara Makoul de France 24.
Concernant la langue et l'aide psychologique, c'est là aussi qu'Info Migrants vient faire un trait d'union en fait entre les associations qui peuvent aider, qui peuvent proposer, et les personnes qui sont en besoin de ces informations-là. Parce que c'est vrai qu'on pense parfois qu'il n'y a que quand on a le statut de réfugié qu'on peut avoir des cours de langue en France. Or, il y a beaucoup d'associations moins connues, qui ont moins pignon sur rue, qui proposent des cours de langue parfois de façon très informelle, dans les rues, dans les parcs, à des personnes qui sont encore sans papier, qui sont déboutées, qui sont en instance d'appel, qui sont en attente que leur demande d'asile soit instruite. Et sur Info Migrants, via Info Migrants, on peut avoir cette information-là, de même que pour l'aide psychologique. Parce que, comme le disait Delphine, on a besoin d'une aide différente qu'en fait quand on vient d'un pays étranger. Il y a le barrage de la langue et l'adaptation culturelle qui joue.
Bonjour Sadia, bienvenue.
Oui, bonjour.
Quelle joie dans votre voix. Vous appelez de Lyon. Et vous êtes d'origine afghane, Sadia.
Je suis d'origine afghane, née à Kaboul. Et je suis partie toute seule à 14 ans de l'Afghanistan parce que j'ai tout perdu. Donc je suis arrivée comme une fleur en France.
En quelle année vous êtes partie, Sadia ?
Je suis partie en 91.
D'accord.
À la fin des soviétiques et pendant la guerre civile.
D'accord.
Et avant l'arrivée des premiers talibans à Kaboul.
Alors message d'espoir, voilà. Ce matin, Sadia, vous teniez absolument à nous appeler. Quel est votre message d'espoir, justement ?
Le message d'espoir, c'est que on avance, que la vie, au fait, c'est une grande école, que n'importe quelle expérience qu'on peut vivre, on peut tirer le meilleur aussi, même malgré que ça soit douloureux. Et moi j'ai mis du temps à faire ça, mais on est tous chacun capable de revivre correctement malgré les blessures de l'âme, comme on dit.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Yazdan, à toutes les Afghanes exilées en France
Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? J'ai envie de leur dire bravo déjà pour d'être là, et puis que qu'on est tous sur une même planète, la Terre, et que la richesse des cultures, c'est important. Moi, j'ai les deux cultures afghanes et françaises. Et justement, le Kaboulion, si j'ai créé le Kaboulion, c'est un traiteur. Mmh. Et je voudrais ouvrir un lieu, justement, qui mixe, qui brasse les cultures et qui prend, justement, en compte l'humain dans son intégralité.
Et vous ne parliez pas français quand vous êtes arrivé, hein?
Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Rappelez le nom de votre entreprise, Kaboulion. Kaboulion.
Oui, avec le L en commun. Parce que je suis née à Kaboul, j'habite à Lyon. Donc, j'ai créé ce truc. Et je suis suivie par l'incubateur Singa, justement, pour créer ce lieu-là, pour que ce soit un bar à vin mélangé à une maison de thé et la rosette de Lyon avec des tapas afghanes.
Très bien, voilà. Ça promet. Merci beaucoup, Sadia. Et bon courage pour votre entreprise Kaboulion.
Merci beaucoup. À bientôt.
Avec les Afghans. Journée spéciale sur France Inter.
Jamila est sur le point d'accoucher, alors Salima va essayer de lui trouver une place. L'Afghanistan est l'un des pires pays au monde pour la mortalité infantile et celle des mères. Le rôle des sages-femmes est aussi de les protéger face au risque de grossesse à répétition.
C'est ton combienième ?
Cinquième.
Cinquième ? Tu veux t'arrêter ?
Oui, je vais m'arrêter.
Alors reviens tout à l'heure, je te prescrirai quelque chose.
Elle leur donne accès à la contraception, inacceptable pour les fondamentalistes. Et cela fait des sages-femmes comme Salima, des femmes à abattre.
Je reçois constamment des menaces par téléphone. Ça fait 14 ans que je fais ce métier, vous savez. Tout le monde me connaît ici. Tout le monde sait ce que je fais. Je reçois des lettres aussi où on me dit « Toi et ta famille, vous allez payer ». Mes collègues aussi sont menacés. Mais il faut bien qu'on vienne ici pour aider. On a une responsabilité. Je dois travailler pour nourrir ma famille. Mais je n'en peux plus. J'ai trop de pression. J'ai trop peur.
Sous la peur et la menace, elle vient pourtant de mettre au monde le bébé de Jamila. Ce jour-là, toutes les naissances sont des filles.
Extrait d'Envoyé spécial diffusé sur France 2 en septembre dernier. Bonjour, docteur Azada Yacoub.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes gynécologue obstétricienne aux hospices civils de Beaune. Vous vous rendez régulièrement en mission à l'hôpital français de Kaboul avec la chaîne de l'espoir. Cet hôpital français fonctionne-t-il encore?
Oui, tout à fait.
Ouais. Il a été ouvert en 2001, c'est ça?
Alors oui, la chaîne de l'espoir, à la base, c'est une association qui a beaucoup travaillé autour de la chirurgie cardiaque, au départ pour recevoir des enfants, puis s'est diversifiée en ouvrant des hôpitaux, en permettant les interventions sur place dans les pays. Donc cette association a 10 hôpitaux dans le monde, dont un hôpital qui a été créé à Kaboul dans les années 2000, avec un versant pour l'enfant, notamment proposant la chirurgie cardiaque pour les enfants, mais la prise en charge de l'enfant en général, c'est-à-dire avec des services de pédiatrie et toutes les autres chirurgies pour enfants, orthopédiques, etc.
Quelques chiffres, hein. En 2018, l'Institut médical français pour la mère et l'enfant a ouvert donc à Kaboul. Il a ouvert en 2016, mais en 2018, cet institut a reçu 2655 patients pour des pathologies comme des cardiopathies ischémiques, des troubles néonataux graves, des méningites, des malformations congénitales. Quelles conséquences aurait cette fermeture de cet institut, en sachant que les femmes médecins là-bas sont surtout les médecins là-bas sont surtout des femmes? Quelles conséquences concrètes, directes, si ces femmes pédiatres et gynécologues ne pouvaient plus travailler?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la maternité qui a été ouverte par la chaîne de l'espoir est un centre de référence et c'est un hôpital avec des standards européens. C'est la seule néonatologie en Afghanistan et c'est la seule maternité qui permet de prendre en charge les pathologies hyper pointues en Afghanistan. Et donc, la fermeture de cette maternité ferait qu'on ne pourrait plus en prendre en charge ces pathologies complexes et ces enfants prématurés.
Va-t-on assister, de votre point de vue de médecin, à une forte dégradation de l'état de santé des femmes afghanes ?
Ah, j'en suis profondément convaincue pour plusieurs choses. Déjà, c'est le fait que les femmes se mobilisent de moins en moins par peur de sortir. Et donc, on voit déjà au niveau de l'Institut médical qu'il y a une diminution de 50% des consultations. Il y a plus que 16% d'activités chirurgicales. Donc, les femmes ne viennent plus se faire opérer. Donc il y a une peur du déplacement, mais il y a aussi des problèmes économiques. Et c'est vrai que là, le gros drame qui gâte l'Afghanistan, c'est la crise économique et la famine derrière. Donc.
Et j'aimerais citer l'anthropologue Véronique Naoum Grapp dans une tribune récemment publiée dans Le Monde. Je la cite, « Les femmes afghanes tomberont dans un état sanitaire de plus en plus dégradé. La privation à long terme et à bas bruit de vitamine D, conséquence de la couverture de tout centimètre carré de peau au dehors, va se conjuguer avec les effets destructeurs d'accidents sanitaires démultipliés dans le cadre d'un mode de vie enclos, épuisant. Les niveaux de morbidité et de mortalité infantile vont exploser. »
Alors effectivement, le fait d'être complètement couvert est un vrai problème pour la vitamine D. Mais il faut savoir aussi que l'autre gros problème, ça va être les carences vitaminiques liées à la dénutrition. Donc, ça sera pas le problème des femmes afghanes. Bien sûr que le climat instauré par les talibans, d'être couverte, de pas pouvoir sortir, etc., est un réel problème éthique et engendrera des problèmes de santé. Mais il faut pas oublier que la dénutrition, c'est encore pire.
Que peut-on faire depuis la France pour aider la santé des Afghans et des Afghanes en particulier?
Alors, il me semble qu'il y a pas mal d'associations qui sont restées sur place en Afghanistan et qui continuent à travailler. Et il faut soutenir, au moins financièrement, ces associations-là. Et l'autre chose, c'est aussi leur donner une image médiatique pour faire pression, pour que ces activités-là se maintiennent, soient soutenues par les bailleurs et par les États, et en maintenant dans un cadre de dignité de la population afghane, bien sûr, en maintenant des règles.
Delphine Rouillot, comment aider concrètement les Afghanes depuis la France ?
En fait, il y a deux sujets. Il y a comment aider les Afghanes en France et comment aider depuis la France les Afghanes restés en Afghanistan. En France, c'est simple, c'est la société civile qui doit s'investir, c'est ces associations qui doivent organiser l'accueil. Ce que Reza a expliqué tout à l'heure, c'est essentiel. Mais je pense que la priorité des priorités, notre préoccupation à toutes, c'est d'aider les femmes qui sont restées sur place. Et donc, il y a deux problèmes, il y a deux sujets. Il y a comment faire pour qu'un maximum de femmes puissent partir, puissent revenir en France ou revenir en Europe. Donc là, on a un sujet de mobilisation politique, de délivrance de visa. Enfin, on n'a pas le temps là d'en parler, mais il y a un enjeu très très fort que d'accélération de délivrance de visa pour permettre la réunification familiale notamment. Et puis après, il y a comment est-ce que les ONG peuvent participer du maintien pour les femmes en Afghanistan d'une forme d'éducation, quand bien même les écoles resteraient fermées.
Comment soutenir concrètement les femmes afghanes depuis la France? Eh bien, en faisant un don auprès d'ONG comme Afghanistan Libre ou Négar, ou encore Amitié Mères Afghanes, et également l'UNICEF, Amnesty International, Médecins Sans Frontières, Action Contre la Faim, participer à des collectes de vêtements, de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, adhérer, devenir bénévole et participer aux actions des associations sur le terrain, et puis si l'on peut évidemment accueillir chez soi des femmes réfugiées afghanes, et on fait en parler autour de soi, s'informer, sensibiliser et se mobiliser. Merci à toutes, merci Yazdan Massoma, pardonnez-moi, d'être venu ce matin. Merci Delphine Rouillot. Merci à tous d'être venus. Comment on peut retrouver Infomigrant?
Infomigrant.net sur Internet et sur Facebook.
Merci à tous, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez, tiens, participer, écouter le concert ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique des artistes interprètes afghanes et françaises. Yael Naïm, Émilie Loiseau, le soprano Machal Arman et l'ensemble Kaboul ou encore Atik Raimi. Vous pouvez réserver dès maintenant sur le site Maison de la Radio et de la Musique.fr. Un concert présenté par Rebecca Manzoni et André Manoukian. Merci également à Céline Vilgas qui a coordonné cette journée spéciale. Merci à Alexia Rivière, Camille Poux, Jalaguier et Victorien Thomas d'avoir préparé cette émission spéciale. Dans un instant, la suite de cette journée spéciale avec Nagui et sa bande originale.